Je suis très, très heureux et surtout c'est un grand honneur de vous parler ce soir. Cette marque de confiance du pasteur Walter me touche vraiment dans les cœurs et je suis très, très reconnaissant pour cette particulière attention. Je bénis les Seigneurs parce que quand je suis arrivé à Genève, pendant ma formation, je me demandais, mais où je peux prier le Seigneur? Et je sentais comme si l'Esprit me dirigeait. Je cherchais l'église et puis je suis arrivé jusqu'à ici. Et puis après, je sentais comme si l'Esprit me conduisait jusque-là. Et je demandais juste à un pasteur, il me dit, est-ce qu'il n'y a pas une église à côté? Il dit, non, mais juste à côté de toi, là. J'ai essayé un peu de voir sur Internet quelles sont les églises qui peuvent m'intéresser. Et je sentais l'Esprit me dire, mais tu as déjà trouvé une place. Et quand je suis entré ici pour la première fois, j'ai été marqué par deux choses. La première chose, je sentais la chaleur de la présence de Dieu. Et la deuxième chose, les surnaturels. Ça m'a vraiment touché. Je me suis dit, waouh, j'ai trouvé où je peux bénir et célébrer l'Éternel. Je m'appelle, comme le pasteur a dit, je m'appelle Moni Murungani. Je viens du Congo, le deuxième plus grand pays d'Afrique. Après l'Algérie, c'est nous, en fait. Nous avons 2 345 000 km². C'est naturellement toute l'Europe occidentale. Un seul pays. Nous avons 9 pays limitrophes. C'est le plus grand pays qui a beaucoup de pays limitrophes. C'est vraiment, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de travailler avec la technique. J'allais vous montrer un peu ce grand pays mystérieux que Dieu a placé en Afrique centrale. Et moi, je crois toujours que le Congo a une mission évangélique. Mission évangélique pour deux choses. D'abord, parce que il est entouré de beaucoup de mystères. Déjà, là où vous êtes, chacun de vous, il a un morceau du Congo dans son téléphone. Parce que dans ce téléphone que vous possédez, se trouve la seule matière qui se retrouve que seulement dans ce pays et qui est dans les batteries de vos téléphones. C'est mystérieux, ce pays qui a de richesses, je peux dire, qui par moments, qui énerve. Géologiquement riche, mais un pays caractérisé par la pauvreté, difficile à comprendre. Deux extrêmes. Ce pays a connu une succession de guerres depuis l'indépendance en 60 jusqu'aujourd'hui. Ce pays est toujours convoité par ceux qui veulent les richesses que Dieu a placées dans ce pays. Mais moi, je crois en une chose, c'est pourquoi je suis retourné dans ce pays. C'est que ce pays, dans les jours à venir, sera la plaque tournante de l'évangélisation du monde entier. Je le crois fermement. Et toutes les richesses que Dieu a placées dans ce pays, c'est pour sa gloire et pour évangéliser le monde entier. La fois dernière, quand j'étais ici, j'étais en train de partir encore dans mon pays. Je vous ai fait savoir que certaines études qui ont été faites par le programme alimentaire mondial démontrent que dans les 10 ans qui viennent, les 10% de l'alimentation mondiale proviendra de la fertilité du sol de ce pays-là. Et donc, il y a beaucoup à faire. Et moi, je me prépare déjà à servir dans les 10 ans à venir le monde entier par ce pays. Je m'occupe aussi d'un petit groupe, de 80 jeunes. Qui, naturellement, je suis en train de les apprendre l'informatique et l'accès à la nouvelle technologie. Vous imaginez que dans ce grand pays qui a environ 80 millions de population, 2 personnes sur 100 seulement, 2 personnes sur 100 dans le milieu reculé ont accès pas à l'informatique, mais à l'ordinateur. Il n'y a que 2 personnes sur 100 qui ont déjà vu l'ordinateur. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de commencer à entrer dans le milieu un peu reculé pour apprendre à des jeunes, à des étudiants et à des élèves comment on peut se servir de cet outil qui devient de plus en plus incontournable, Et ici, je lance un appel. Si vous avez des ordinateurs, même de l'ancienne version, l'ancienne génération, que vous ne utilisez plus, ça nous servira. Nous, on s'occupe de tout ce qui est transport. Ici, vous pouvez les collecter et les mettre à notre disposition. Nous pouvons facilement le faire accéder à notre pays afin que ces jeunes qui, au fait, sont carrément coupés du monde puissent accéder à la nouvelle technologie. Alléluia. Je suis marié il y a déjà 16 ans que je suis marié. J'ai une merveilleuse femme. Elle ressemble vraiment à la splendeur. Je l'aime tellement que si aujourd'hui Dieu me demandait de faire un nouveau choix, je la choisirais certainement. Malheureusement, il y a sa photo. Je promets vous amener la photo et vous la verrez. Et nous avons avec elle, tenez bien, nous avons avec elle 5 enfants. Et les comptes sont bons. Les comptes sont bons. Nous les avons déjà clôturés. Ce soir, j'ai à cœur de vous partager un petit thème, une petite réflexion, au fait, qui, par un certain moment, les gens commencent à l'oublier. Mon petit thème de ce soir, c'est le service. Le service. Un petit mot, mais qui renferme de mystères, de bénédictions, de bienfaits, des grandeurs, de choses inimaginables, le service. Nous allons lire la parole de Dieu dans deux passages de la Bible. Le premier, c'est dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, nous lirons du 5e verset jusqu'au 11e verset. Et nous lirons également dans Un Roi chapitre 17, verset 8 jusqu'au 16e verset. On va commencer dans Philippiens chapitre 2, verset 5 jusqu'au 11, la Bible déclare « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. » Si la Bible vous appartient, j'aimerais que vous puissiez souligner cela. « La forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. » Ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Le deuxième passage, c'est dans 1 Rois chapitre 17, verset 8. Nous commençons, la Bible déclare, « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot. » Vous remarquez qu'à partir de ce verset, il y a déjà un début de l'histoire. « La parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot. » On parle ici de Élie. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva, il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et il alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et il répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois. Puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord, après, avec cela, un peu de gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans les pots ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Et là, il fit selon la parole de l'Éternel. Et pendant longtemps, il eut de quoi manger, et elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée à Élie, parole de l'Éternel. Déjà, vous remarquerez que dans ce passage de En Roi, on nous parle d'une histoire qui déjà nous fait savoir un mystère. Un mystère profond que moi j'appelle le service. Il est possible que vous connaissez bien la définition du service, qui vient en fait du verbe servir. Pour moi, ma définition de servir, c'est offrir, n'est-ce pas? Comment je peux dire? Offrir des éléments de réponse à un besoin manifeste ou un besoin caché dans quelqu'un d'autre. Servir, c'est combler un vide qui paraît dans quelqu'un d'autre. Servir, c'est satisfaire un besoin de quelqu'un d'autre. Servir, c'est donner solution à une équation qui se cache dans une personne autre que soi. Bien-aimé, je dois vous dire ce soir que dans la pensée de Dieu, si Dieu, il est la solution, il a placé dans l'homme la formule pour l'équation qui se trouve dans une autre personne. Dieu travaille de cette façon. Il est la solution. Il passe par un homme pour trouver problème, solution à quelqu'un qui se trouve un peu plus en bas. L'homme, il est un intermédiaire entre celui qui est la solution et celui qui a les problèmes qui attendent les solutions. Et celui qui a l'intermédiaire, c'est l'homme, c'est moi, c'est vous. C'est chacun de nous qui, au fait, est dans la pensée de Dieu, le messager qui apporte la solution à quelqu'un à côté. C'est ce que moi j'appelle le service. Et vous remarquerez, si vous lisez la Bible du début à la fin, Dieu se servait toujours des personnes. Il passait toujours par des personnes pour trouver solution aux problèmes des personnes. Et à chaque époque de l'histoire des enfants d'Israël, à chaque époque, Dieu plaçait quelqu'un qui était le service pour le problème de cette époque-là. Vous remarquerez par exemple, pour que les enfants d'Israël quittent Égypte et rentrent dans le pays des promesses, Dieu s'est servi de Moïse. Moïse n'était pas seulement un serviteur de Dieu, mais était le service des dieux par lequel Dieu est passé pour donner solution. Que dirais-je de Josué qui, après Moïse, il a pris la relève? Que dirais-je de Gédéon? Que dirais-je de Joseph? Que dirais-je de tous ces hommes, des hommes et des femmes par lesquels Dieu est passé pour donner solution à un problème? Et exactement de cette façon-là que Dieu continue à travailler depuis toutes les époques. C'est pourquoi je dois nous dire, bien-aimés, que Dieu passera toujours par quelqu'un pour trouver solution à cette question qui est dans ton cœur. Dans le temps passé, les anges descendaient et donnaient le message de Dieu. Mais à notre époque-ci, Dieu passe toujours par des personnes afin que nous puissions trouver une réponse à une préoccupation. Et ici, dans le passage que nous avions lu, nous remarquons que Élie doit changer de place. Rappelez-vous qu'à cette époque où Akab était roi, les enfants d'Israël se sont compromis parce que Akab s'est marié à une femme qui n'était pas dans l'alliance avec Dieu. Il a introduit les interdits dans la maison de l'Éternel et Israël s'est retrouvé en train d'adorer des idoles. Et Dieu suscite non seulement un serviteur, mais un service, Élie. Et Élie vient avec une mission bien précise, renverser les autels qui étaient déjà placés par Achab à travers sa femme Jézabel. Et je ne suis pas très fort en études bibliques, mais je n'ai pas vu avant ce chapitre 17 de 1 Roi, là où la Bible a parlé de Élie. Je peux me tromper. L'histoire d'Élie commence par un défi. Les enfants disaient se sont mal comportés. Et Dieu suscite quelqu'un qui doit faire face à un grand défi, un grand challenge. Renverser ce que Jézabel a déjà placé. Et Élie se présente devant Achab pour lui dire, bon, la première étape pour la première phase de la façon dont Dieu va faire éclater sa gloire, il n'y aura ni pluie, ni rosée pendant 3 ans et demi. Waouh! J'imagine comment il s'en sortait pendant cette époque-là. Où il n'y a plus d'eau, et lorsqu'il n'y a plus de pluie, cela veut dire que aussi la végétation commence à disparaître. Cela veut dire que les agriculteurs vont connaître de sérieux problèmes. Et Dieu, dans sa pédagogie, dans sa façon d'agir, il va placer Élie à l'abri de tout ce qui est sécheresse. Il lui dira dans un premier temps, va dans un torrent de Kérit où je te ferai manger par les corbeaux. Pour une parenthèse, je me demande, est-ce que les corbeaux connaissaient où se trouvaient les boulangeries? La Bible ne dit pas combien de temps il est passé par là. Combien de temps il était à Kérit. Mais il est possible qu'il était à Kérit plus de 6 mois. Certains commentateurs disent plus de 12 mois. Il était là en train d'être nourri par les corbeaux. Et voilà, à un certain moment, Dieu décide à le faire quitter Kérit. Et il lui dit, va à un autre endroit. Pourquoi? Parce que le torrent de Kérit était déjà séché et Dieu a changé sa pédagogie d'approvisionnement. Ah, c'est comme ça que Dieu fonctionne. À un certain moment, lorsque Dieu te dit « va à cet endroit », cela veut dire qu'à l'autre endroit, il n'y a plus assez de provisions. C'est pourquoi, bien-aimé, je nous appelle à être à l'écoute de Dieu, être sensible à la parole de Dieu, sensible à la voix de Dieu. Il est possible que Dieu peut te dire de quitter un endroit pour aller à un autre endroit. Il est possible que Dieu te dise de lâcher ses relations parce qu'il n'y a plus assez de provision pour t'attacher à une autre relation que lui-même, il est en train d'orchestrer. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à lâcher les anciennes relations. Ils s'y accrochent. À un certain moment, ça fait mal, mais ils s'y accrochent toujours. Il est possible que lorsque ces relations commencent à vous faire mal, il est possible que Dieu les a fait quoi? Il les a déjà dépouillés de toutes les provisions de joie. Alléluia. Et voilà que Élie se retrouve maintenant à Sarepta. Et à Sarepta, ce qui est intéressant, et c'est ça mon message de ce soir, il y a 4 choses qui m'ont vraiment intéressé. Il se retrouve à Sarepta. Et les 4 choses... Vous pouvez tout oublier, mais je vous appelle à ne pas oublier ces 4 choses. Je vais vous les citer tout de suite là. La première chose, c'est la demande de Élie. La deuxième chose, c'est l'état de la veuve. La troisième chose, c'est la réponse et l'action de la veuve. Et la quatrième chose, le résultat qu'a produit l'action de la veuve. La première chose qui m'a fort touché dans ce passage, vous remarquerez que Élie n'a même pas posé la question, « Madame, avez-vous un peu d'eau? Avez-vous un peu de farine? Est-ce que vous avez assez de provisions pour me servir ?» Non, Élie, il vient sans protocole, sans même réfléchir, et il pose la question à la femme, il dit, on est ensemble, verset 10. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme, veuve, qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Mais Élie, est-ce que tu te rends compte que nous sommes dans une sécheresse? Et tu en es le responsable. Tu as dit qu'il n'y aura ni pluie ni rosée. Mais pourquoi tu peux me demander de l'eau à boire? Je m'imagine que la femme...
Ça, c'est moi, c'est ma réflexion. Je repousse les réflexions et disais, mais Élie, tu ne te rends pas compte que dans peu de temps, je n'aurai plus d'eau. Est-ce que dans toute cette contrée de Sarepta, tu n'as pas vu d'autres personnes assez capables qui peuvent te donner de l'eau à boire? C'est seulement à moi. J'imagine qu'elle était en train de faire tourner sa tête dans ses pensées. La Bible déclare au verset 11, « Elle alla en chercher. » Pendant que la femme, elle part chercher à boire, Élie, la Bible déclare, il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Je me dis, la femme s'est dit, « Mais est-ce que ce gars, il se rend compte qu'on est dans une situation délicate et puis on n'a pas assez ?» Comme ce soir, il y a des gens qui calculent tellement et qui disent « Non, jusque-là, j'aurai ça. Et puis après, je ne veux pas trop bouger sur mon budget parce qu'il est très carré. Hein, très carré, je ne veux pas trop bouger. » Et la Bible déclare, elle répondit « L'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois. » Puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Regardez comment quelqu'un, il réfléchit déjà, il fait la planification de sa mort lorsque la provision sera finie. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un peu de gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. La première chose que je voulais, Église, que nous puissions comprendre, il y a des moments où Dieu peut vous demander des choses qui paraissent être au-delà de votre capacité à satisfaire. Mais j'aime Dieu, parce que dans la même question que Dieu nous pose, dans la même demande de Dieu se trouve la solution à la demande. Et Élie dit, prépare, après quoi tu auras à manger et à boire. Je m'imagine que la femme, elle se disait, mais peut-être Élie, il a une cargaison de farine et d'eau, et qu'après ici, il va encore nous en donner. Je m'imagine qu'elle croyait que Élie avait un petit magasin, un petit dépôt quelque part où se trouvait à cette provision. Mais rien ne montre qu'Élie avait tout ça. Mais la deuxième chose que j'aimerais que nous puissions comprendre, c'est l'état de la veuve. Vous savez que lorsque la Bible parle de veuve, ça veut dire que la Bible parle d'une catégorie de personnes qui sont caractérisées par la vulnérabilité. Une veuve a déjà perdu son mari et donc elle a perdu une bonne partie d'elle-même. Elle est dans un état de fragilité où elle a plus besoin d'être écoutée, d'être servie, d'être aimée, d'être assistée et tout et tout. Et voilà que Dieu y pointe la personne vulnérable pour servir. Je suis un peu sidéré de dire, mais pourquoi Dieu a choisi une telle catégorie de personnes? Il est possible qu'elle n'avait pas assez d'assistance. La Bible demande d'ailleurs qu'elle disait, il me reste un peu pour manger, et puis quoi, nous allons mourir. Mais c'est exactement cette personne qui est dans un état de fragilité qui devrait servir. Bien-aimé, vous savez, c'est de cette façon-là Dieu travaille pour faire éclater sa gloire. Lorsque Dieu veut faire manifester sa puissance, il ne se serve pas de ceux qui possèdent déjà, il se sert de ceux qui n'en ont pas. N'est-ce pas qu'il est écrit que c'est dans nos faiblesses que Dieu fait quoi? Il se glorifie. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans un état de victime et qui ne croient qu'à cet état-là de victime. Non, bien-aimés. Et c'est ce que je dis souvent à mes frères et sœurs de mon pays. Même si le monde nous a imposé une situation de victime, nous devons nous comporter comme des acteurs principaux dans la scène. Je ne suis pas toujours d'accord avec mes frères de mon pays qui, lorsqu'ils parlent avec les autres, ils prennent un état de victime. Ils courbent la tête de cette façon-là. Oh, vous savez, dans mon pays, les gens souffrent, vous savez, vraiment. Et puis, ils font couler un peu de larmes, là. Vous savez, nous avons besoin d'aide. Bien sûr que nous avons besoin d'aide. Mais sachons une chose, c'est que c'est lorsque nous sommes dans la ruine que Dieu fait éclater sa puissance et sa gloire. Je me réjouirais plus de mes faiblesses que de mes forces. Car Dieu, il se manifeste comme Dieu lorsque nous reconnaissons que nous sommes faibles. Et voilà que c'est à cette personne, de cet état, que Dieu passera pour faire manifester sa gloire. La femme, à un certain moment, elle se résignait, elle disait, comment je peux servir? Et si vous lisez un peu, là j'en viens sur... Si vous lisez le verset 12 et 13, vous allez comprendre que la femme va manifester un état d'égoïsme. Un état d'égoïsme. Je ne suis pas très fort en calcul, mais je peux vous citer combien de fois cette femme a prononcé les prénoms personnels. Elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je, moi là, je n'ai rien de cuit. Un, deux. » Je n'ai qu'une poignée de farine, ça fait deux, n'est-ce pas? Et voici, je ramasse, ça fait trois. Je rentrerai, je préparerai. C'est là pour moi et pour mon fils. Nous mangerons. Après quoi, nous mourrons. Elle fait tourner tout l'événement sur elle et sur son fils. Voilà comment nous limitons notre monde de visitation. Ne pensons qu'à nous. J'aimais le message de ce matin lorsque le pasteur disait, quand tu as toujours l'habitude de voir la poussière, tu finis toujours par manger la poussière. Et beaucoup de gens, ils ont tellement limité leur monde, ils ne croient qu'à eux-mêmes, ils ne voient qu'eux-mêmes, ils ne réfléchissent que pour eux-mêmes. Il ne planifie que pour eux-mêmes. Et c'est là où nous limitons Dieu et nous limitons les mystères de servir les autres. Et Élie vient pour changer la façon de la femme de faire quoi, de réfléchir. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord. C'est un déclic dans la tête. Et il croyait que tout devait se tourner sur elle-même. On dit non, change un peu la façon de voir. D'abord pour moi et puis après pour toi. Et beaucoup de gens sont comme cette femme-ci. Le matin, il ne réfléchit qu'à lui-même. La journée, à lui-même. Le soir, à lui-même. Et demain matin, encore à lui-même. Et c'est là où le monde a carrément passer à côté de beaucoup de faveurs. Vous savez, parmi mes formations, j'ai aussi la formation, je suis juriste de formation. J'ai fait mon stage dans un cabinet d'avocats et étant chrétien, je réfléchissais beaucoup sur pourquoi y a-t-il beaucoup de divorces. Et ma spécialité était de faire une étude sur les causes des divorces. Quand je pensais à toutes les divorces que j'avais sélectionnés au niveau du tribunal de grande instance de mon pays, j'ai remarqué que sur 100 divorces, 99 de ces personnes se sont aimées un jour. Ils ont vécu ensemble, ils ont réellement vécu les merveilles du mariage. Et je m'imaginais quelles sont les vraies causes. Chez nous, par exemple, pour déclarer deux personnes séparées, divorcées, une grande raison, c'est l'infidélité. Mais aussi, il y a un autre point important, c'est ce que les juges appellent l'incompatibilité de caractère entre les mariés. Bien-aimés, est-ce que vous savez que jusqu'à notre mort, nous, les mariés, nous serons toujours incompatibles? Non. Écoutez, si vous croyez que votre femme sera comme vous, là vous vous trompez. Si vous croyez que votre mari sera comme vous, vous vous trompez. De surcroît, pour que ça marche, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui est différent de toi. Je me rappelle lorsque j'étais en train de préparer mon mariage, mon parrain me disait, mon pasteur me disait, tu sais, la meilleure façon de rester longtemps avec ta femme, c'est de comprendre deux choses. Que le mariage, c'est comme quelqu'un qui a deux jambes. La première jambe, ça s'appelle se comprendre. La deuxième jambe s'appelle ne pas se comprendre. Et lorsque tu as les deux jambes, ça marche. Parce qu'au fait, un mariage qui perdure, c'est un mariage qui a la capacité de gérer les incompréhensions. Et ici, vous remarquerez que cette femme, elle croit avoir trouvé solution au lendemain de sa vie. Mais non, la solution, ce n'était pas la mort. La solution, c'est de continuer à pérenniser cette histoire de la veuve. Vous remarquerez que dans la Bible, il n'y a pas assez de veuves qui ont une histoire aussi merveilleuse comme celle-ci. Pourquoi ? Et nous allons le voir ici tout de suite là. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir le résultat. La femme a changé sa façon de voir. Et parce qu'elle a changé sa façon de voir, elle a changé aussi sa façon de faire. Elle est allée, elle a fait d'abord le pain à l'homme de Dieu. Il lui a donné aussi à boire. Je m'imagine qu'elle était en train de se dire, bon, ok, il est en train de manger, je ferai aussi pour mon fils et moi-même. Et puis après, on va attendre peut-être demain, on va mourir. Mais la Bible déclare ici que la farine n'a plus manqué et il y avait toujours à manger. J'imagine qu'elle rentrait dans sa provision pour vérifier, est-ce qu'il y a quelque chose... Et le matin, il disait, mais l'homme de Dieu avait dit qui ne manquera pas. Je dois aller vérifier. Ça, c'est moi de ma façon de réfléchir. Sûrement qu'il est allé dans la provision, il a vérifié, il a dit, « Oh, homme de Dieu, j'en ai trouvé !» C'est rentré dedans. La Bible ne dit pas toujours qui venait déposer la farine, qui vient. Les choses de Dieu sont toujours surnaturelles. Et ça s'efface de la façon de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui venait chaque matin, on n'en sait pas. Est-ce que la nuit, il y avait un ange qui atterrissait comme un spirit qui entrait par la provision qui déposait et qui disparaissait? On n'en sait pas. Tout ce qu'on sait, que parce qu'elle avait obéi, elle avait donné à manger à l'homme de Dieu, il n'en manquait plus. Ici, qu'est-ce que je voulais dire, bien-aimé? Je voulais dire seulement une chose. Lorsque vous avez compris qu'il faut servir, par la suite, vous êtes aussi servi. De quelle façon, je ne sais pas. Comment, je n'ai aucune idée. Mais je sais seulement que plus tu sers, plus tu es servi. À un certain moment, on s'imagine, ah ok, comme j'avais un petit 10 francs, je donnais au pasteur Nicolas 10 francs, j'imagine qu'un peu peut-être le pasteur Walter, comme je le vois un peu, il est trop gentil, il me fera 20 francs. Non, non. Lorsque tu sers quelqu'un, reste calme. Car le mystère du service travaille en ta faveur et tu seras servi par la suite. Dans combien de temps? Je n'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que tu seras servi. Vous saviez, bien aimé, la chose qui nous empêche de voir la main de Dieu, c'est d'oublier de servir les autres. Je me suis imaginé les grandes entreprises qui, jusqu'aujourd'hui, perdurent, qui ont fait des siècles. Ce sont des entreprises qui ont développé le sens du service. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours entendu parler de Rolex. J'ai toujours entendu parler d'Adidas. Si vous rentrez dans la logique, dans la politique de ces entreprises, vous comprendrez que ce sont des entreprises qui développent et qui se développent par des services. Les pays les plus avancés, ce n'est pas les pays qui ont beaucoup de ressources naturelles. La preuve en est que mon pays, il a beaucoup de ressources naturelles, mais qui n'avance pas. Mais les pays les plus avancés sont les pays qui développent des services pour les autres. La demande d'Élie était un déclic qui a permis à la femme d'être au centre. Elle est devenue la star de la Bible. Aujourd'hui, on parle de, ça, de cette veuve que nous ne connaissons pas le nom. Peut-être le pasteur Walter connaît le nom, il va me donner le nom à la fin. La Bible parle seulement de la veuve de Sarepta. Elle est revivée à Sarepta. Elle est devenue la star. Pourquoi? Parce qu'elle a servi et elle a compris le mystère qui se trouve dans le service. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, mais pour servir, il faut que je sois dans un état ou dans une position de servir. Non. Il n'y a pas de position pour servir. Chaque position a déjà en elle-même la provision pour servir. Je m'imagine que vous posez la question, mais je ne suis pas pasteur. Comment je vais servir? Mais je n'ai aucun ministère dans l'église, comment je peux servir? Bien-aimé, personne n'est à l'abri d'être un serviteur. Chacun de nous a déjà un ADN qui s'appelle service. Parce que lorsque nous avons été sauvés par un service. Jésus lui-même, qui est le service par excellence, il est descendu et il s'est offert comme un service. Et nous avons été sauvés par un service. C'est pourquoi j'aime beaucoup, là où j'ai lu dans Philippiens chapitre 2, verset 4, et puis est descendu. La Bible déclare que Jésus est venu en forme de qui? Des serviteurs. Il a accepté de laisser sa position au ciel. Il s'est dépouillé de sa divinité. Quand je parle de se dépouiller, cela veut dire qu'il n'était plus devenu Dieu, hein, il était toujours Dieu. Mais il s'est dépouillé de la position qu'il avait. Il s'est fait comme serviteur. Mais je m'imagine, mais s'il était comme moi, je me dis, mais non, mais je devais d'abord descendre comme fils de Dieu, et puis comme Dieu, et puis je devais commencer à regarder à gauche, à droite. Est-ce que vous savez que je suis Dieu là? Est-ce que vous croyez que je suis Dieu? Je suis Dieu, je viens du ciel. Non, la Bible déclare qu'il a semblé oublier tout ça. Il s'est fait serviteur, il a servi, il a donné à manger, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts. Il a accepté jusqu'à la croix. Il a été pendu. Il a souffert. Regardez bien la conséquence. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous avons chanté ici le nom de Jésus. À tel point que tout genou fléchit devant lui et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Veux-tu être grand? Sois le serviteur des autres. À un certain moment, les disciples se disaient entre eux-mêmes. Mais en fait, j'ai comme l'impression, j'imagine quand Pierre, il était toujours émotif, et il demandait aux gars, mais je crois que le monsieur, tu vas partir, hein? Le Jésus, il va partir. Mais quand il va partir, c'est qui sera grand? C'est qui sera le patron, le boss? Et il est possible que Jésus était à côté et il revenait, il disait, mais de quoi vous parlez? Et c'est lui qui était les plus petits, les gens qui étaient toujours mignons, là, il disait, mais Pierre, il demande entre nous qui sera grand quand il sera parti. Et Jésus dit, c'est lui qui veut être grand, qui soit le serviteur des autres. Je vais clôturer mon message en vous donnant trois choses encore. J'aime les trois choses, quatre choses. La première chose, c'est que personne n'est à l'abri d'être serviteur. Ouf, c'est fort. Une bonne nouvelle. Personne n'est à l'abri. C'est quoi le service? Le service, ce n'est pas donner de l'argent seulement à quelqu'un. Le service, ce n'est pas seulement donner des choses matérielles à quelqu'un. Le service, c'est aussi un sourire à quelqu'un. Imagine-toi, ça fait combien de temps que tu n'as pas souri à quelqu'un? Tu es toujours crispé là, oh, le boulot, hein. Je suis surmené là. Et puis quand tu arrives à la maison, touche pas, je suis un peu fatigué là. Ça fait combien de temps là? Ça fait combien de temps que tu as dit bonjour avec ton cœur à quelqu'un? Voilà les petits services dont les gens ont besoin. Ça fait combien de temps que tu as prié pour quelqu'un? Vous savez, nous sommes même des égoïstes dans nos prières. Vous imaginez si aujourd'hui là on dit, bon, prions le Seigneur. Oh, tu vas commencer. Seigneur, aide-moi, tu sais, j'ai un problème à gauche. Seigneur, tu sais qu'au service, moi, vraiment, Seigneur, tu sais, d'ailleurs, mon enfant là, même dans la prière, nous privons les autres de service. Nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Si on nous dit de prier pendant une heure, je suis sûr que tu vas prendre 58 minutes toi-même pour tes propres problèmes. Déjà, ça pose un problème dans nos façons de prier. Est-ce que vous savez que Dieu ne répond pas à la prière pour nous? Il répond à nos prières pour sa gloire et pour les autres. Vous savez pourquoi sur le mont Carmel, le feu est descendu? Pas parce qu'Élie était terrible, non. Parce qu'Élie avait fait une prière qui tournait vers Dieu, vers les autres. Il dit que l'on sache que je suis ton serviteur et que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est vivant. C'est pourquoi le feu est descendu. Vous imaginez un peu si moi j'étais, j'allais dire, je vais les démontrer aujourd'hui qui je suis là. Feu descend, qui voie, non. Et c'est de cette façon-là que nous passons à côté de notre façon de prier. Nous prions par moments pour nous. Nous oublions que Dieu répond pour que le monde voie sa gloire. Même pour que ta maladie soit guérie, c'est pas pour toi. C'est pour que le monde voie qu'il y a un Dieu qui guérit et qui glorifie le nom de l'Éternel. On amène un malade à Jésus et puis les disciples disent, mais c'est qui a péché? C'est lui ou c'est ses parents? Jésus dit non. Cette maladie, elle était placée pour que lorsqu'elle sera guérie, que l'on sache et qu'on voie la gloire de l'Éternel. La deuxième chose que je dois nous dire, bien-aimés, c'est que la grandeur se cache dans le service. La grandeur se cache dans le service. Aujourd'hui, nous parlons d'une femme veuve parce qu'elle avait servi. Demain, on parlera de vous lorsque vous servirez les autres. Même des générations passeront à travers le service que vous avez rendu à quelqu'un. On parlera toujours de vous. Il y a même ceux qui vont venir comme les enfants de vos enfants, les enfants de vos enfants, bénéficieront des faveurs des autres parce que lorsque vous étiez là, vous servez les autres. La troisième chose, et c'est par là que nous allons prier, c'est que la dimension supérieure de serviteur, c'est lorsque lui-même y devient un service. Je dis que nous sommes tous des serviteurs. Mais la dimension supérieure des serviteurs, c'est lorsque lui-même, il est un serviteur. Nous avons toujours l'habitude de chanter « Je me livre à toi, je m'abandonne à toi, je me donne à toi, prends tout ce qui est à moi. » Sommes-nous prêts à accepter cette façon, ces déclarations-là? Je viens d'un pays où le service a vraiment sa place. Je m'imagine dans le grand nord de mon contrat où les gens sont en train de mourir de l'épidémie Ebola. Avant que vous entrez dans la zone d'Ebola, vous devez d'abord être vacciné et puis deuxièmement, vous allez faire une déclaration écrite. Je signe moi tel que même si je mourrais avec l'épidémie, personne ne va réclamer tout et tout. J'ai vu les gens refuser des contrats. Pour ça, je n'écris pas. Mais j'ai vu des volontaires qui venaient, qui disaient, je suis prêt à aller sauver mes frères et sœurs qui sont morts. Sommes-nous prêts à abandonner une part d'honneur, de gloire pour les autres? Sommes-nous prêts à nous oublier, à penser aux autres? Combien d'entre nous se cramponnent sur leur propre vie et oublie ceux qui sont à côté d'eux.